L'état civil.
Hein?
Et l'état civil.
L'état civil, oui.
Bon, et
le vrai.
Le plus ancien, vas-y.
Moi, j'en ai eu un ou deux faux, autrefois. Maintenant, c'est le vrai. Depuis ma naissance, c'est toujours Jacques Payot, de Bourg-en-Bresse. Et je suis né en 1922. Voilà, vous faites le calcul.
86.
J'ai donc 86 ans. Voilà. Et 86 années qui ont été bien employées, comme vous pouvez le penser, surtout pendant la guerre. On s'en est occupé. Voilà. À toi.
Oh, Jean Marinel, je suis un peu plus jeune que lui, 84.
C'est un gamin.
Bon, j'ai été instituteur, puis prof de gym. Et j'habite Bellegarde, depuis j'ai toujours habité Bellegarde, voilà. Et j'ai été donc lycéen, comme lui, pendant la guerre. Donc membre de l'organisation de résistance du lycée.
Oui.
Et puis aussi à l'extérieur, chez moi, avec mon père.
L'organisation de résistance du lycée, là, celle qui est maintenant, c'est pas du tout celle qui était avant, parce qu'on a pu réunir tous les résistants qui ont existé et qui ont été membres du lycée. Moi, je suis parti du lycée en 41. Et toi, en...
Ben, 45.
45, ben oui, bien sûr. Et c'était fini.
Est-ce que on passe tout de suite aux questions-réponses, non? Ou bien on expose.
Voilà, moi qui ai tout de suite des questions, mais en principe, comment c'est.
Nous sommes là parce que nous sommes des anciens lycéens résistants au sein du lycée. Résistants aussi à l'extérieur, mais c'est autre chose.
Oui.
Donc on pourrait vous raconter comment, à votre âge, on a été contacté, on est devenu résistant, et on a fait un certain nombre de choses.
Donc, allez, vas-y, va. Moi, toi, tu as l'habitude, tu es un ancien enseignant, moi pas. Je vais enseigner que des mauvaises choses.
Oui. Bon, on a donc vécu au lycée au début de la guerre, à l'époque où on mangeait pas beaucoup, et très mauvais. Le réfectoire, c'était l'horreur. Oh, ouais.
Si, ça a changé.
Tu mangeras des rutabagas cuits à l'eau, tu verras le changement. Si, on a mangé avec vous tout à l'heure, là, c'est pas la haute gastronomie, mais enfin, ça permet de survivre quand même, quoi.
Quand même.
Donc, nous étions dans le lycée pendant la période de l'occupation. Moi, en tant que j'étais élève instituteur, normalement, on aurait dû être à l'école normale. Mais une des premières décisions de Pétain, après avoir signé l'armistice avec les Allemands, ça a été de fermer les écoles normales, parce que c'était un foyer de, paraît-il...
Sédicieux,
de gens trop à gauche, etc. Bon. Ce qui formait des instituteurs qui n'ont pas su enseigner la jeunesse, d'où la débâcle de 1939-1940.
C'est voilà. Ce qu'ils disaient.
Alors on nous a mis dans le lycée, toujours en tant qu'élève-maître... Je suis d'une famille ouvrière. Mes parents n'auraient pas pu me payer la pension du lycée. Donc, en tant qu'élève instituteur, boursier national, on ne payait rien. Ça nous valait d'ailleurs un certain mépris des proviseurs, des boursiers qui ne payent pas. Bien, d'entrée, dès l'invasion allemande, en ce qui me concerne, nous avons été tout de suite des opposants, ce qui n'était pas le cas de la majorité des Français.
Non.
La France a été pétainiste pendant un an à 95%, puis ensuite ça s'est un petit peu arrangé. Mais au début, Pétain, il avait arrêté la guerre, il avait traité avec les Allemands, il avait sauvé une partie de la France, la zone libre. Vous savez qu'il y avait une zone libre et une zone occupée. Donc c'était le grand homme, puis c'était le soi-disant héros de Verdun. Tout le monde suivait le mouvement. En 1941, ça a commencé un peu à se déliter. En 1942, il y avait quand même un plus grand nombre de gens qui basculaient de l'autre côté. Ça s'est fait progressivement jusqu'en 1944. En ce qui me concerne, ça a été tout de suite. Vous pourriez me poser la question, pourquoi êtes-vous devenu résistant? Voilà. Je l'ai été d'entrée, sans appartenir à une organisation de résistance. Dès 1940, on a considéré que Pétain était en train d'installer un régime fasciste et puis qu'il entrait en collaboration, il l'a dit lui-même, avec les Allemands. Alors, pour nous, dans mon milieu, dans ma famille, ça voulait dire la dictature. On avait suivi la guerre d'Espagne, je ne sais pas si vous avez ça dans la tête, la révolte de Franco contre la République espagnole, et cette guerre d'Espagne qui a duré 2 ans, de 36 à 38, perdue par les Républicains, gagnée par Franco le dictateur, avec l'aide des Allemands et l'aide des Italiens.
Fasciste aussi.
Je peux citer un nom, vous en avez peut-être entendu parler, Guernica. Ça vous dit quelque chose? C'est un célèbre tableau qui montre le bombardement de la ville de Guernica par l'aviation allemande au service de Franco. Et c'était leur premier essai de bombardement massif. Donc on avait suivi ça. Hein, et on avait donc une certaine prédisposition à être anti-Pétain. Parce que quand Pétain s'est installé, tout de suite, il a supprimé toutes les libertés fondamentales. La France n'était plus une république, c'était un État. Il n'était pas président de la République, il était chef de l'État. Et il avait abrogé toutes les lois fondamentales de la démocratie, c'est-à-dire liberté d'association, liberté d'expression de la presse, liberté d'opinion, tout ça était aboli. On s'est rendu compte, les Français n'ont pas compris ça tout de suite. Mais nous, on s'est rendu compte tout de suite qu'on entrait dans une ère fasciste. Alors, ça ne voulait pas dire qu'on était résistant, parce qu'on avait bien, de la sympathie pour De Gaulle, mais sans plus, quoi. Et puis, c'est petit à petit que des gens se sont regroupés. On a vu naître des petits noyaux de résistance, ici ou là. Ça se faisait avec beaucoup de discrétion, parce que la police était très active. Ensuite, quand les Allemands ont envahi la zone libre, on avait la police française, qui était très active au service de Pétain, la Gestapo, c'était l'horreur, hein, et puis la milice. Est-ce que vous savez ce que ça a été la milice?
Non.
En 1943, les actions de résistance commençaient à prendre de l'importance. Alors le gouvernement Pétain et Laval, son gouvernement, un peu poussé par les Allemands, ont créé une nouvelle structure, des volontaires, qui étaient dotés de pouvoirs de police, en plus des autres polices, donc qui pouvaient faire des enquêtes, et qui étaient armés pour aller lutter contre les maquis. Donc, à côté des Allemands, avec les Allemands, la milice allait combattre les maquis. Donc, on avait encore la milice sur le dos, et j'aime autant vous dire que c'était des clients sérieux, il ne fallait pas tomber entre leurs mains. Enfin, bon, malgré ça, la résistance a grossi, les petits groupes se sont rencontrés, imaginez une tache d'huile, puis une autre, qui s'agrandissent, puis qui se retrouvent. Alors on a abouti à des mouvements de résistance, les principaux, mouvement libération, le mouvement franc-tireur, le mouvement combat, puis le mouvement FTP. Pourquoi plusieurs mouvements? Parce que pour faire tout ça, il fallait être très prudent. Pour embaucher quelqu'un dans la résistance, il fallait être très sûr de lui, parce qu'il y avait beaucoup de mouchardage. Donc les petits noyaux se sont faits au sein de groupes humains qui avaient une solidarité entre eux, une confiance entre eux. Ce qui fait qu'on est arrivé à 3 mouvements principaux de résistance qui étaient indépendants les uns des autres, qui contenaient des gens un peu de toutes sortes, mais enfin avec quand même certaines orientations. Alors, au lycée, la résistance a été introduite par le canal d'un monsieur qui s'appelait Paul Pioda, qui était le créateur dans l'un du mouvement Libération, et qui avait des rapports avec les lycéens. Des rapports pourquoi? Cet monsieur était encadreur de son métier. Son magasin était dans la rue, je ne sais plus comment
Victor
on l'appelle.
Bache. Hein? Victor Bache.
Victor Bache, peut-être. Donc, il avait été contacté par les dirigeants du mouvement Libération et chargé de l'implanter dans le département de l'Ain. C'était un homme presque imprudent, hein, finalement.
Oui.
Dans sa vitrine, il avait mis un portrait de Pétain. Il y en avait partout, d'ailleurs, des portraits de Pétain.
Hein. Il fallait.
Partout. Alors, au bas du portrait, il avait écrit « Vendu ». Comme s'il avait vendu le portrait, mais enfin, Pétain, vendu. la police est venue lui rendre visite en lui disant ça va pas, ça. C'est, vous avez l'air de. Elle dit bon, ben, je vais mettre autre chose. Alors, et le lendemain, c'était acheté. Bon, comme ça, il se fait repérer, lui, là. Hein. Enfin, bref, c'est pour vous montrer l'état d'esprit à ce moment-là.
Et après, on s'est méfié de ces trucs-là.
Ce monsieur avait eu la bonne idée de créer quelque chose qui n'existait pas à l'époque, mais qui existe maintenant, la bourse aux livres. Dans son magasin, il recevait les lycéens qui changeaient de classe, et il achetait les bouquins d'occasion pour les revendre aux nouveaux. Une bourse de livres. Donc il était en contact avec un grand nombre d'entre nous, et comme ça, par petites touches, en faisant des allusions, il est arrivé à détecter ceux des lycéens qui étaient susceptibles de participer à la résistance.
Mais hélas, pas tous.
Oui, pas tous. Enfin, il en a quand même détecté trois. Il y avait donc Tenon, Paul Morin, et puis le troisième, je ne sais plus. Donc, il leur a craché le morceau, voilà. J'anime un mouvement de résistance, qui s'appelle Libération, qui a pour but de lutter contre la régime Pétain, puis plus tard de lutter contre les Allemands pour essayer de les chasser. Est-ce que vous ne pourriez pas, à l'intérieur du lycée, faire du recrutement ? Alors, c'était des amis, c'était des copains. Ils se sont mis en quête de ceux de leurs meilleurs amis à qui ils pouvaient proposer la chose, en faisant attention quand même, parce qu'il y en a... Il y a des lycéens qui n'étaient pas d'accord, et il y avait même un mouchard parmi les lycéens. Donc, on a vu naître, au sein du lycée, un mouvement de résistance, qui était le mouvement Libération, et puis plus tard, quand les grands mouvements de résistance se sont rassemblés, c'est devenu les FUJE, Force Unie de la Jeunesse. Et notre but, c'était de nous préparer à combattre. Pour l'instant, on était surtout des internes, on était internes, on n'avait pas grand moyen. Mais enfin, on a créé une structure. C'était des sizaines, comme dans le scoutisme, avec un chef de sizaine. Cinq chefs de sizaine constituaient une trentaine. C'était ça, la hiérarchie. La sizaine A ne connaissait pas les membres de la sizaine B. Seuls les deux chefs se connaissaient, en principe. On est arrivé à être 60 dans le lycée. Sur un effectif de 500, je crois. Deux trentaines, 60 lycéens.
Oui, il ne devait pas être 500. Hein? Il ne devait pas y avoir 500.
Pas 500. En comptant peut-être le petit lycée, je ne sais pas. Ben, c'est bien infiniment plus petit que maintenant. Hein. Oui. Et donc, on a constitué une structure. Au début, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ben, on faisait ce que la résistance a fait dès le début, c'est-à-dire... distribuer des journaux clandestins.
Propagande.
Il faut savoir que nous subissions, nous et la population, un matraquage d'opinion pas possible. Donc je vous l'ai dit, toutes les associations étaient dissoutes, les partis politiques, les syndicats, etc. Pas de liberté de la presse était censurée. La radio, il y avait Radio Paris qui faisait du pétinisme à fond de cale. Si bien que l'opinion française était complètement sous un couvercle. Alors les gens qui ont organisé les mouvements de résistance se sont dit, le premier travail, le plus important, c'est de regagner l'opinion. Parce qu'en 1941, tout le monde applaudissait Pétain. Hein. En 1942, déjà un petit peu moins. Puis en 1943, encore un petit peu moins. Parce qu'il y avait le rationnement, parce que les Allemands étaient méchants, parce que, etc. Mais il y avait les petits journaux, fait par la résistance, qui contrebalançait ce système de couvercle sur la pensée. Dans le lycée, dans chaque classe, il y avait un portrait de Pétain grand comme ça, par chaque classe. Tous les lundis matins, dans la cour d'honneur, on était rassemblés, il y avait un drapeau, et on montait le drapeau,
tricolore,
comme dans une caserne, et on chantait, on devait chanter, le chant du maréchal. Maréchal, nous voilà.
Ce que j'avais traduit, moi, c'était ma première acte de résistance déjà en 1941. Je trouvais ce vieux cornichon, il me déplaisait. Puis ces premières méthodes, j'étais pourtant déjà encore jeune. Ça me passait vraiment. Ça ne me plaisait pas. Alors je chantais aussi fort que je pouvais, mais en me baissant, parce que j'étais plus grand que mon âge, chantait Maréchal Vieux Gaga. Alors, c'était Maréchal Nous Voilà. Chanson ô combien stupide, d'ailleurs.
Hein. Maréchal Nous Voilà, toi, le sauveur de la France, nous sommes tes enfants. Enfin, un truc complètement stupide. Ça se faisait également en classe primaire. Hein.
Maréchal Nous Voilà. Vous voyez chanter Maréchal Nous Voilà.
Et puis le samedi, on descend le drapeau et, on chante encore. En classe primaire, j'ai vu à Belgarde, les élèves récitaient un décalogue.
Ah oui.
C'est-à-dire 10 maximes moralisantes et pétinisantes, quoi.
Oui, bien sûr.
Tous en chœur, ils récitaient le décalogue de la bonne conduite du bon petit pétiniste. Voilà. Alors, d'ailleurs, ces portraits de Pétain nous déplaisaient tellement qu'une nuit, on s'est levé en cachette à quelques-uns, et on les a tous enlevés, et on les a remplacés par des portraits de Gaulle. Alors, je ne vous dis pas, le lendemain matin, la fourmilière dans le lycée qui a fait ça, il y a eu toute une enquête, ils ne l'ont pas trouvé, bien évidemment. Mais enfin, c'était une autre manière, une façon de résister. Mais il y avait un petit risque quand même, si quelqu'un avait dénoncé, s'ils avaient pu attraper un des fautifs, ils passaient en tribunal. Or, passer en tribunal, ça pouvait aller loin. Tribunal français, il vous condamne à quelques mois ou quelques années de prison. Et puis, de la prison, vous pouvez vous retrouver en camp de concentration. Ça a été le cas de Paul Morin et de Thenon, les deux créateurs de la résistance dans l'Ain. Ils ont été repérés par la police française.
Tout au moins au lycée.
Oui, ils faisaient de la... Oui, non, au lycée. Ils ont été repérés par la police française comme étant des gaullistes qui faisaient de la propagande. Ils ont été... Et puis notre prof de gym, Marcel Cochet, dont le nom est sur le gymnase. Là. Ils ont été arrêtés, jugés par un tribunal français, 143, ça. Condamnés à je ne sais combien d'années de prison. Bon, la prison de Bourg étant une petite prison de rien du tout, on les a transférés dans une grande centrale à Hesse, c'est dans le Lot-et-Garonne, je crois, où ils se sont trouvés mélangés avec les assassins, les voleurs... les prisonniers de droit commun. Il y a eu dans cette prison une tentative d'évasion collective. C'est les résistants qui avaient essayé d'organiser ça. La tentative a échoué de peu, d'ailleurs, par la faute des gendarmes français qui étaient
surveillés,
qui étaient dans les miradors. Alors, du coup, les Allemands ont pris possession de la prison et ils se sont retrouvés en camp de concentration. À Dachau. C'est à Dachau, hein, il s'est trompé tout à l'heure, Rebelle.
Oui.
C'est à Dachau qu'ils étaient. Camp de concentration, vous savez ce que c'était que le camp de concentration. Hein. Paul Morin est revenu, il pesait 30 kilos. Il est à peu près de mon gabarit. Hein?
Non. Il était maire de Bourg. Il était maire de Bourg. Après
il va beaucoup dans les établissements scolaires, justement, pour faire comme nous, pour parler.
Il était là ce matin.
C'est-à-dire qu'en partant d'une dénonciation d'un Français, de la police française, on pouvait atterrir en camp de concentration. C'est pour dire que. Il y avait des risques partout, même en faisant des petites choses. La nuit, ben, quand on était chez nous, quand j'étais à Belgarde, moi, la nuit, il nous arrivait de faire des tournées de tracts en passant derrière la patrouille allemande, parce qu'il y avait une patrouille. Bon, il n'aurait pas fallu se faire attraper. Ça paraît anodin, mettre un bout de papier dans les boîtes aux lettres, tout ça. Il faut déjà le trouver, le bout de papier.
Et le fabriquer.
Donc, et ça pouvait se terminer comme ça, hein. Peut-être pas la fusillade tout de suite, mais enfin... Je vous parlais donc des journaux qui ont été le premier travail de la résistance. Alors voici un exemplaire. Un papier tout gris, un petit format. C'est le journal du mouvement Libération. Il était imprimé à Bourg. Paul Pioda avait convaincu un imprimeur... J'ai dit son nom tout à l'heure, je l'ai déjà oublié.
Non, tu n'as pas dit.
Moi, Page. Page, peut-être.
Page, peut-être, tu m'as dit.
Qui, avec deux employés très sûrs, pendant toute l'occupation, ils ont imprimé le journal Libération et à la fin, ça devait faire environ 200 000 exemplaires. Hein. Il a imprimé aussi un autre journal.
Il fallait se procurer le papier aussi.
Le journal Birakem. Oui, alors le papier, c'était comme le pain et la viande et autres, c'était contingenté. C'était limité parce que les Allemands raflaient dans tous les domaines la production française en grande partie et les Français n'en avaient plus qu'un petit bout apprendre. Hein. Donc, papier pareil, il fallait trouver en cachette du papier. C'était encore une autre difficulté, de ne pas se faire prendre, à trouver du papier, et puis de trouver un vendeur, etc. En voici un qui s'intitule « Les lettres françaises », qui était édité par un groupe d'intellectuels, poètes, philosophes, écrivains, résistants, parce qu'il faut savoir qu'un grand nombre d'intellectuels avaient versé dans le pétinisme, voire dans le pro-nazisme. Des collabos, dans les intellectuels, il y avait un tas de collabos, des gens qui écrivaient bien, mais qui avaient pris le parti du nazisme. Alors les lettres françaises, c'était les écrivains français, le Comité national des écrivains. Bon, celui-ci, c'est témoignage chrétien. L'Église catholique, la hiérarchie de l'Église catholique avait pris position pour Pétain. Ils ont été pétinistes.
Presque jusqu'à
la fin. Mais parmi les chrétiens, les catholiques de la base, il y en a qui n'approuvaient pas. Alors il y avait donc un mouvement de résistance chrétien qui publiait ce journal, Témoignage chrétien.
Ce que j'ai rappelé aussi ce matin, c'est que le créateur de ce mouvement a été prof de lettres dans ce lycée.
Professeur Mandouze.
J'ai eu comme prof de lettres après 40.
Alors donc, il y avait un journal des chrétiens, il y avait un journal des communistes aussi. Enfin, voilà par exemple une lettre ouverte des prêtres et aumôniers du maquis de la région de Saint-Claude. Il y a eu une terrible répression contre les maquis en 43, avec des massacres, des exactions de toutes sortes. Et ce sont des prêtres qui ont sorti ce truc. Alors, c'était pas rien quand même de faire ça. Voilà, il y a défense de la France aussi, tout un tas comme ça. Il fallait donc trouver du papier, il fallait trouver un imprimeur. À Bourg, qui avait donc Page, et puis qui a imprimé Libération, et aussi Birakem, un autre journal. Il fallait ensuite le distribuer, ça. 100 000 exemplaires, on ne pouvait pas les laisser là. Il fallait donc un réseau de gens assez courageux pour venir chercher ces journaux par paquet. Chacun partait avec un petit ou un gros paquet. Les allées et venues, là, n'ont pas permis à la police de détecter. Et puis ensuite, ces journaux étaient distribués dans tout le département, à tous les membres de la résistance qui devaient le lire, et le faire lire, ou le mettre dans des boîtes à lettres. C'était dangereux, il y a pas mal de gens qui sont morts pour ça, qui ont été surpris.
Évidemment à Lyon.
Oui, qui ont été surpris. Alors, c'était la contre-propagande qui a réussi à faire basculer l'opinion du pétinisme, B.A., de 1940 et 1941, au gaullisme de 1944. Bon, il y en a qui ont évolué au gré du vent, mais il y en a quand même qui avaient compris grâce à cette diffusion de journaux clandestins. Alors, dans le lycée, les journaux rentraient et on les distribuait. Ça a été une de nos activités. Après, la résistance s'est militarisée. Le but, c'était quand même de combattre les Allemands. Alors, il est arrivé un peu de matériel par voie de parachutage.
Il a fallu d'abord trouver des terrains de parachutage.
Trouver des terrains, oui.
Et ensuite, convenir avec Londres le nom du terrain, l'emplacement. Et puis après, il y avait les messages personnels par la radio. Moi, je sais que mon terrain de parachutage sur Neuville-sur-Ain, il était nommé cerf-volant, et quand on a eu notre parachutage qui a servi à armer les enfants de troupe de l'école d'Autun, dont vous avez peut-être entendu parler, il a été fait sur le terrain de Neuville-sur-Ain, et le message personnel, c'était « La lune est blafarde ». Le nom d'un chien avec mon frère, quand on a entendu ça, on dit « C'est le moment d'y aller, préparons-nous oui. ». Et on a eu nos parachutes.
Tous les jours, on entendait à Radio Londres des messages comme ça, quelquefois amusants, hein. Ma grand-mère fait du vélo, ou des trucs de ce genre.
Mais le pomène se parfume à l'héliotrope. Je me rappelle de celui-là.
En France, il y avait un chef de groupe qui connaissait ce signal, qui savait que ça voulait dire que le lendemain soir, il y aurait un parachutage à tel endroit.
Alors, il y en avait un Et puis quelquefois, il fallait qu'il soit répété, parce qu'il pouvait y avoir entre l'annonce et puis le démarrage de l'avion, ou des avions britanniques forcément, des aléas. Alors, si le message était répété, c'était bon, on pouvait être préparé, mais quelquefois, il n'était pas répété, alors il ne fallait pas y aller. Ou alors, il disait, il y en avait un, et puis il disait du premier coup, deux fois. Alors ça, on dit, c'est bon.
Et au sol, c'est il y avait donc bon. des signaux lumineux pour, oui. Qui étaient convenus entre le pilote de l'avion et les gens au sol, oui. pour identifier encore plus sûrement la chose.
Personnellement, j'ai assisté... un atterrissage au bord de la Saône, dans la région de Replonge-Manzia.
Oui, c'était un coin.
C'était un coin prédestiné parce que c'est plat, il y a des grands terrains d'herbe et il y avait des pilotes anglais remarquables.
Les pilotes, oui.
À la fin, vous avez peut-être vu des films sur la résistance et les parachutages, les cinéastes, en fait, ça se faisait même quelquefois. Ils mettaient des cuvettes d'essence auxquelles ils mettaient le feu. C'était dangereux comme tout, parce qu'un avion allemand pouvait passer, beaucoup de gens pouvaient voir ces feux énormes. C'était absolument dangereux. Et moi, j'ai assisté à un des plus tardifs atterrissages en tant que faisant partie de l'équipe de protection, parce qu'il fallait quand même se défendre en cas d'intervention allemande. Et on était donc armés jusqu'aux dents et un peu aguerris déjà. Et bon, et à ce moment-ci, avec trois lampes de poche, on en avait six parce qu'on a toujours peur qu'il y en ait une qui ne marche pas bien. Et avec trois lampes de poche, on décrivait
un L.
Un L, vous comprenez? L. Alors, un là et deux en bas, par exemple. Alors ça veut dire que l'avion entre les deux là pouvait atterrir jusque là-bas au bout. C'est des petits avions, les Lysander, avec des pilotes comme ça.
Pleine nuit, ils atterrissaient en pleine nuit.
En pleine nuit, noir.
Ah oui, c'était des cracks.
Et alors, le pilote nous a expliqué, on a dit deux mots avec lui. Moi, je suis allé vers lui, on avait le doigt sur la détente, parce qu'on s'attendait à une intervention allemande quand même, malgré tout, on ne savait pas. Et je lui dis, comment vous repérez il dit, que la Saône, c'est très bien, parce que même en pleine nuit, ça miroite un peu. Alors, une fois qu'on a repéré la Saône, qui descend en plein sud, on est bon. Alors après, on attend vos lumières. Puis après, hop, il y en a un bonhomme est descendu, un autre est monté dedans, jamais celui qui était, j'avais autre chose à faire. Puis surtout, ne rien savoir, on était arrêtés, on pouvait nous torturer, on pouvait rien dire.
Oui, ça se faisait.
Il y en a qui savent tout, bon, j'en connais un de mes amis d'ailleurs, dans l'ancien de lycée. Il a tout vu, tout fait, il sait tout, il est un tel, il savait tous les noms. C'est tout du blablabla. Moi, j'ai jamais su qui c'était qui était monté dans l'avion, et jamais su le nom de celui qui est descendu. Le pilote, c'était toujours le même, l'avion n'était pas arrêté, le moteur tournait toujours, et dès que le gars était dedans, il repartait. C'était bien fait.
Ça se faisait par des nuits de pleine lune, oui, et il se dirigeait avec le relief.
Et même nuit noire.
Ouais, en particulier par les rivières. Oui.
Ouais. C'était assez impressionnant parce que, malgré tout, un avion, ça fait du bruit, même un petit. Hein. Et Replonge Manzia, c'est pas très loin de l'autre côté, Mâcon, où étaient les Allemands. Vous pouvez entendre.
Hein, à ma connaissance, il n'est jamais arrivé que des Allemands interviennent sur un atterrissage ou un parachutage. Ouais. Enfin, si, le parachutage de la prairie des Chalons, là, les Allemands y étaient.
Ah oui,
mais autrement, ils ne bougeaient pas. Les garnisons ne bougeaient pas trop.
Surtout la nuit, ils avaient un peu peur quand même. Il pouvait se faire tirer dessus.
Des questions. Surtout, hein. Même des questions personnelles, en ce qui me concerne, pour ne pas vous gêner. Questions sur le maquis, sur...
Son appel, on vous l'a dit ou vous l'avez entendu à la radio?
Non, l'appel de Gaulle,
ouais.
Moi je ne l'ai pas entendu, et en France,
il y en a très peu
qui l'ont entendu. Et ensuite, ça s'est propagé très vite. Et il a été redit.
Oui, Pierre-Jean, en fait, il y avait la Radio de Londres, les Français parlent tout français, c'était l'émission française de la Radio de Londres. Et évidemment, tout le monde a...
Ça s'est communiqué comme ça, mais sur le moment, c'était la grosse pagaille. Hein. Quand il a prononcé son discours, c'est la, la grande pagaille en France, les armées françaises qui fuyaient à toute vitesse vers le sud, les Allemands qui arrivaient, tous les réfugiés qui encombraient les routes, qui fuyaient devant les Allemands, c'était une pagaille pas possible. Alors, l'appel, il a été un peu passé sous silence, mais ils s'en sont rendus compte et il a été redit. Et puis ensuite,
c'est devenu célèbre, même.
Avec les journaux clandestins, il a paru. Mais sur le moment, ça n'a pas fait. La France était restée pétainiste.
Ah oui,
voilà, un certain temps.
Il faut dire une chose certaine, que je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le disent, mais il faut le dire quand même, ce n'est pas tellement notre honneur, mais personne n'avait envie de se battre en 40. Personne. Même ceux qui se sont battus. Hein. Ils se sont battus contre les forcés. Et c'est pour ça que vous avez entendu parler de la drôle de guerre. C'était la guerre qui existait entre la mobilisation qui a été faite en septembre 1939. Enfin, moi. J'étais en Allemagne à ce moment-ci, c'était ma dernière année avant le bac. J'avais un oncle qui m'avait trouvé une famille pour me recevoir pendant un mois et demi pour apprendre l'allemand. Je parlais très bien allemand, j'avais un très bon prof aussi. La première qui a suivi, j'ai rien foutu, mais je suis passé mon bateau la main. Je parlais bien mieux que maintenant. Mais enfin, c'était comme ça. Mais je suis rentré 3 jours avant la déclaration de guerre. Il y avait des bruits là-bas, en Allemagne, et la famille dans laquelle j'étais, qui était d'assez braves gens quand même, ils avaient 2 fils SS, et ils me disaient, mais vous verrez, Hitler a déjà évité 2 fois la guerre, parce que s'il n'y avait pas eu la guerre, il y avait eu, je ne sais pas si on vous a raconté l'histoire, mais il y a eu l'annexion de l'Autriche, il y a eu une annexion des Sudètes, personne n'a bougé, les Anglais pas plus que les Français, alors qu'il y avait des traités qui devaient nous mobiliser et même nous faire intervenir. Et finalement, c'était quand il a envahi la Pologne, Hitler, que le traité avec les Polonais, qui était quand même un état assez important, nous a obligés, on était obligés de déclarer la guerre à les Anglais aussi. C'est comme ça que la guerre a été déclarée. Mais personne n'avait envie de se battre en France. Vous rendez compte, il y avait eu Verdun, il y avait eu 2 millions de morts 20 ans avant. Comment voulez-vous que les gens soient prêts à la guerre? Les Allemands, eux, l'étaient, parce qu'il y avait une grosse crise économique. Hitler avait remis de l'ordre dans le pays, ils avaient fait développer pas mal de choses, une propagande formidable, et les Allemands étaient persuadés, comme ils me disaient dans ma famille, il a évité 2 fois la guerre, Hitler, il va encore l'éviter 1 fois, vous verrez. Il leur faisait avaler
oui,
n'importe quoi.
Les Allemands étaient matraqués du point de vue de l'opinion. Ils avaient réussi quand même à retourner la presque totalité du peuple. Hein. Les Allemands résistants, il y en a eu, on en a connu d'ailleurs ici, mais il y en a eu très peu.
Puis ils ont surtout commencé à être résistants à la fin quand ils ont vu que c'était foutu, quoi. Mais soyez allemands avec les Allemands, c'est notre seule sauvegarde. Moi, je viens d'une réunion avec des Allemands. Voilà.
Ah ben.
Je fais de la montagne avec des Allemands.
Les jeunes Allemands que vous pouvez rencontrer peut-être au cours d'échanges scolaires ne sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs grands-pères.
Oui.
Et nous, on se rappelle de ce qu'ils ont fait. Oui. Et vraiment, c'était sanguinaire.
On ne doit pas s'appeler civilisé quand on fait des choses comme ça.
Les actions qu'ils ont menées contre les maquis de l'Ain, le maquis de l'Ain était quelque chose d'important. Il y a eu 3 offensives allemandes sur les maquis de l'Ain. Ça s'accompagnait de brutalité, de massacres auprès de la population civile. Pour décourager la population civile d'aider la résistance, quand une troupe allemande parcourait la montagne, quand ils trouvaient une ferme qui était susceptible d'avoir accueilli des maquisards, bon, en principe, ils fusillaient le père de famille et peut-être même tout le monde, et ils faisaient brûler la maison. Il y a eu comme ça des centaines de maisons qui ont brûlé, pas à titre de représailles, à titre d'avertissement. Hein, bon, et puis les tortures.
Ma propre maison natale y a passé, moi, avec tous mes souvenirs. Mais enfin.
Bon, à l'époque, on ne savait pas encore ce qui se passait dans les camps de déportation. Mais on avait vu sur place ce que ça donnait. Hein. Les miliciens aussi, c'était pas triste. Quand ils en attrapaient un, il n'était pas beau à voir à la sortie.
Et quand on les retrouvait, j'ai eu un chef de réseau qui a été pris. Il avait créé un réseau, il était étudiant en médecine à Lyon. Il avait créé un réseau dont on faisait partie. Il s'appelait le coq enchaîné, tu vois, il y en avait des petits réseaux. Je n'ai jamais entendu parler de ce réseau, d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'il en est.
Je ne sais pas s'il n'y avait pas un journal.
Le coq enchaîné, il y a le canard enchaîné, mais...
Non, mais le coq, peut-être.
Le coq enchaîné, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Moi. Et puis, c'est lui qui l'avait créé. Et il a disparu un jour, arrêté par la Gestapo. On n'a jamais retrouvé son corps. On sait qu'il est mort sous la torture, c'est sûr et certain. Sans quoi, je ne serais peut-être pas là. Mais...
Alors vous voyez qu'à l'intérieur du lycée, le mouvement de résistance était important, puisque ça représentait quand même 60 personnes, mais avec des possibilités d'action limitées, donc les distributions de journaux. Et puis on a reçu une petite formation militaire. C'était vraiment minimum, mais il n'y avait pas moyen de faire mieux. Il y avait une mitraillette chez deux de nos amis qui étaient externes. Alors le jeudi après-midi, c'est le jour de sortie, on faisait des petits paquets de 4 ou 5, qui allait chez Tenon, au site SNCF, et puis chez Bouvet, dont les parents tenaient une ferme en périphérie de Bourg. Et là, on apprenait à monter et à démonter la mitraillette, la fameuse mitraillette Sten, que les Anglais nous envoyaient en abondance. Il fallait savoir, ça se démontait facilement, c'était une mécanique simple tout de même, mais il fallait savoir la monter et la démonter les yeux fermés. Il n'était pas question de faire des exercices de tir. S'il y avait une garnison allemande à Bourg, si on avait fait des exercices de tir, aussitôt ils auraient été alertés, ils seraient arrivés. Donc quand on a vraiment pris les armes au moment du débarquement, on était un peu tout neuf en tant que guerrier. On était un peu tout neuf. Hein, ouais. Voyez, on a pris sur place sur le moment.
Résultat. Et on a fait des sabotages, on faisait sauter les...
Alors
les
oui, il y a eu quand même des choses qui se passaient, oui. De nuit, les jours de congé, oui, on pouvait participer à des sabotages sur les rails, faire sauter les rails avec l'explosif anglais, ce qu'on appelait le plastique.
Le plastique est un bon explosif. Avec une charge grosse comme le poing, vous envoyez en l'air un morceau de rail, vous savez ce que c'est qu'un rail de chemin de fer, c'est haut comme ça, c'est large comme ça. Ben, ça vous l'envoie en l'air en miettes.
Le but de l'opération, c'était de gêner la circulation des Allemands. Et c'est devenu très important à partir du 6 juin. À partir du débarquement, c'est devenu très important. On a fait sauter une quantité de ponts et puis détruit une quantité de locomotives pour immobiliser les Allemands qui étaient ici, les immobiliser sur place, les empêcher de monter en renfort en Normandie. Parce que le débarquement sur les plages avait réussi, mais les Allemands étaient quand même là et pénétrer ensuite dans la Normandie, dans le bocage normand, ça a été une bataille qui a duré 3 semaines, 1 mois. Les Allemands, là, se sont encore battus, comme des chiffonniers. Et il fallait empêcher que les renforts montent là-bas. Donc ça a été le rôle de la résistance. Le moment où l'armée secrète, en somme, finalement, au lycée, on était armée secrète. Et en ville, il y avait aussi l'armée secrète. Et à partir du 6 juin, l'armée secrète est montée rejoindre les maquisards qui étaient dans la montagne.
L'armée secrète.
Est-ce que vous avez une idée claire de ce que c'était, de ce qu'étaient les maquis? Voilà. Donc, en 1943, les Allemands étaient en difficulté. Tous leurs hommes valides étaient sur le front. Ils avaient besoin d'ouvriers, de travailleurs. Alors, ils en avaient déjà récupéré pas mal, mais il n'y en avait pas assez encore. Et ils ont persuadé Pétain et Laval d'envoyer obligatoirement des jeunes Français travailler en Allemagne. La classe 22 et 23, je crois.
J'en faisais partie. Ouais,
ceux qui avaient un an ou deux de plus que moi.
Mais ils m'ont pas eu.
Ils étaient obligés d'aller en Allemagne. Ils recevaient une convocation. Bon, il y en a qui y sont allés parce que bon, ils avaient peur des représailles sur leur famille, parce que bon, ils savaient pas trop quoi faire, parce que en ville, les citadins, ils savaient pas à qui s'adresser, ils savaient pas trop à qui s'adresser. C'était plus facile dans une petite ville comme chez moi, Bellegarde. Tout le monde se connaît. Hein. Donc pour monter au maquis, on savait à qui s'adresser, mais en ville, bon. Alors il y en a quand même un grand nombre qui sont partis en Allemagne, mais il y en a une partie qui n'ont refusé de partir, mais refusant de partir, ils devenaient il rentrait dans l'illégalité. Il n'avait plus de carte d'alimentation, il n'avait plus de carte d'identité.
Sauf une fausse.
Donc, ils étaient arrêtés automatiquement s'ils rencontraient la gendarmerie, la police ou autre. Donc, ils sont montés dans la montagne. Notre région s'y prête parfaitement, là. Le Val-Romais, le Bas-Bugey, le Haut-Bugey, le Jura, les plateaux de Retors, c'est des plateaux avec succession de combes et de forêts, avec pas trop d'accidents de terrain. C'était un endroit très bon pour ça. Donc, ils sont montés dans la montagne, certains, comme ça, hein. Ils n'avaient pas trop de quoi s'habiller. Ils avaient un bâton à la main, un sac de scout, les trois habits. Ils sont montés dans la montagne et ils ont occupé les fermes d'alpage, les fermes qui ne fonctionnent que l'été. Ou bien ils ont construit des baraques en bois, ou bien des tentes et des toiles de parachute ou autres. Si vous allez un jour, je vous le conseille, visiter le musée de Nantua, vous verrez une reconstitution du logement des maquisards. Une cabane en bois tressé, une tente avec la toile de parachute. Vous vous rendrez compte de comment vivaient les maquisards. Alors c'est un problème pour les nourrir, hein, puisque déjà en ville, on avait très peu à manger. Il fallait trouver clandestinement, donc en dehors des cartes d'alimentation, il fallait trouver de la nourriture pour leur monter à la montagne. Ça a déjà été un gros problème. Et puis les habiller quand même, ça se passe en 43. L'hiver 43-44 n'est pas loin. Il y en a qui étaient en costume de ville. Hein. Alors il a fallu essayer de les habiller. Alors là, on peut raconter le coup d'Artemare. À Artemare, il y avait un gros dépôt de vêtements qui était destiné à une organisation qui s'appelait les chantiers de jeunesse. C'était un peu long à expliquer. Enfin, c'était les jeunes, ça remplaçait le service militaire.
Alors, l'éducation des jeunes.
Alors, il y avait un gros dépôt, là, qui était surveillé par quelques sentinelles. Alors, un groupe de maquis qui était suffisamment armé et culotté est descendu à Artemare, maîtrisé les sentinelles, et ils ont embarqué tous les vêtements. Les vêtements, c'était des blousons en cuir et des pantalons chauds et des souliers. Avec ça, ils ont habillé les 500 maquisards, à peu près 500, qui existaient à l'automne 43 dans les montagnes. Donc, qui étaient habillés pour passer l'hiver.
Ont défilé en Yona, même pour
alors, si vous avez entendu parler du défilé de Yona, non? Le défilé du 11 novembre 43.
Oui, alors ça, il faut raconter l'histoire.
Ah, ouais. En pleine occupation, donc il y avait des Allemands partout, le chef des maquis,
Roman Petit,
qui était notre chef, il a voulu faire un gros coup de pub, ouais, pour démontrer aux Anglais que les maquis, c'était sérieux. Parce que la propagande disait que les maquisards, c'était une bande de feignants qui se mettaient là pour pas aller travailler, qui faisaient des rapines, etc., enfin des voyous. Hein. Alors, les Anglais n'en savaient pas plus, hein, ils étaient prêts à croire ça. Si bien que le colonel Romain a dit, il faut qu'on fasse un coup de pub. Alors, il avait quand même près de 500 maquisards, bien habillés, tout. Il a monté un coup sur Oyonnax. Oyonnax présente l'avantage, c'est pas sur les grandes routes.
Oui.
Hein, ça pouvait pas se faire à Bellegarde, ça pouvait pas se faire à Nantua. Alors, à Oyonna, où il y avait aussi une forte résistance intérieure.
Accord avec le commissaire de police.
Oui, le commissaire de police était dans le coup.
Le maire, je crois.
À la poste, il y avait quelqu'un qui pouvait neutraliser toutes les communications téléphoniques, oui. etc., etc. Et les maquisards sont descendus en camion de la montagne, ont pénétré dans Oyonna, qui était neutralisé. Complètement neutralisé. Il n'y avait pas
d'Allemand dedans.
Il n'y avait pas de...
La police, ils étaient ailleurs.
Oui,
comme par hasard.
On les a persuadés de rester tranquilles. Et il n'y avait pas de garnison allemande à Oyonna. Donc ça. Alors, ils sont descendus des camions à l'entrée de la ville. Ils se sont mis en rang, comme il faut, comme des vrais soldats. Drapeau en tête. Le colonel Romain en tête, avec les gants blancs. Et ils ont défilé dans la ville. Comme ça, comme une armée légale, comme une vraie armée, impeccable, hein, tenue impeccable et tout. Ils ont défilé en ville, sont allés au monument aux morts, où ils ont fait une cérémonie.
La Marseillaise,
ils ont déposé une gerbe, les vainqueurs de demain aux vainqueurs d'hier, en référence à ceux de 14-18. Alors, les gens d'Oyonnax, complètement sidéré, puis finalement enthousiaste. Hein, tout le monde criait, tout le monde applaudissait, tout le monde. Ils n'en revenaient pas de voir ça. Et alors, de nombreuses photos qui sont parties ensuite en Angleterre et qui ont fait le tour du monde. Et les étrangers, donc en particulier les Anglais et les Américains, ils ont été persuadés comme ça que les maquis français, c'était pas de la rigolade. C'était pas des voyous, c'était pas n'importe quoi, c'était une troupe organisée. Et c'est à partir de là que les parachutages ont augmenté, on a pu avoir beaucoup plus d'armes. Un vrai coup de pub, mais c'était aussi un vrai coup de culot, quoi, parce que ça aurait pu mal tourner. Hein. Bon, ça a pas été. Si ça avait été vendu et que les Allemands de Bellegarde et de la Cluse viennent, là, ça aurait fait un massacre dans la ville, quoi. Mais ça a eu un succès formidable dans le monde entier. Dans le monde entier, on a su que la résistance française était capable d'investir une ville et d'y circuler et de montrer des maquisards qui étaient des vrais soldats. C'est le 11 novembre 43. C'est célèbre comme tout ce défilé du 11 novembre. C'est devenu un peu emblématique. Ça, c'était les premiers maquisards, hein, ceux de 43.
On a de la chance quand même dans l'un, parce que Roman Petit, qui était le chef des maquis, et faut pas oublier le général de l'Estrin, qui était le chef de l'armée secrète nommé par de Gaulle, était de là. Et de l'Estrin habitait Bourg-en-Bresse. Et puis, dont notre président d'ancien maquisard, enfin, résistant du lycée, qui est un de mes amis de promotion, était agent de liaison de Delestin. Il a échappé par miracle à la Gestapo, et se réfugier dans le maquis lui aussi après. Delestin a été à Paris, mais sa famille habitait Bourg. Il était de Bourg.
On a eu aussi la chance que notre chef, le colonel Roman, n'était pas un fantassin.
Non,
c'est un aviateur.
Un aviateur.
Enfin, ça c'est moi qui le dis. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre vous dirait pareil. Dis qu'il n'avait pas passé à l'école d'infanterie, où passent tous les officiers d'habitude. Et donc il n'a pas eu la tête farcie par les erreurs qui ont provoqué la défaite de 1940.
Oui.
Parce que c'est la formation et l'état-major qui ont déconné en 1940, qui ont fait que tout a craqué. Alors lui, aviateur, l'infanterie... Il n'avait pas été marqué par ça. Il a inventé la guérilla. Il a raisonné à partir du territoire sur lequel il se trouvait en disant « Je vais faire des groupes pas trop importants, extrêmement mobiles, qui se déplacent souvent,
autonomes,
qui, à l'occasion, se battent avec un convoi allemand s'il se trouve, mais n'insiste pas, on n'est pas à Verdun, enterré dans les tranchées. On fait une action d'une heure ou deux ou un jour, et puis après on dégage. » On disparaît. Et de cette façon, il n'y a pas eu de massacre dans l'Ain comme au Glières. Avez-vous entendu parler des Glières? Un site de Haute-Savoie où un très fort maquis s'était constitué sur un plateau élevé, entouré de falaises.
Montagne.
Et ils avaient cru faire là, c'est pas une critique, c'est pas leur faute, mais ils avaient cru faire là un réduit imprenable. Et puis en fait, quand les Allemands ont attaqué les Glières, avec les gendarmes, les GMR, les gendarmes français, et avec la milice, eh bien, ils les ont débordés
ils ont atterri d'abord en planeur.
Ouais. Ils les ont débordés en deux jours. C'était liquidé en deux jours. Ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Il aurait fallu qu'ils se fassent tuer sur place. Alors qu'ici, après une bagarre, on se déplaçait de 20 km dans la forêt, et c'est tout. Le groupe restait intact, prêt à repartir.
Quand ils ont attaqué, quand Roman a libéré le Nantua, moi j'étais à Neuville-sur-Ain, ça a été la principale attaque.
Oui, l'attaque de juillet. Oui.
Juillet, du 11 juillet 44. Bon, on avait préparé les positions grâce à mon frère qui était chef du groupe. On était une centaine de types. Et ils nous ont attaqués, ils étaient 2000, avec blindés. Mortier, alors ça, les mortiers, c'est affreux. Moi, je les ai encore dans les oreilles. C'était épouvantable. Au point de vue bruit, ça vous fait un trou comme une assiette, mais alors les éclats, ça va loin et c'est mauvais. Et, bon,
Mitrailleuse lourde.
Hein?
Une mitrailleuse lourde.
Une mitrailleuse lourde, des canons. Il y avait un canon revolver, je me rappelle bien, il tirait 5 coups, pom, 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 pom. Alors quand le premier arrivait, il fallait se planquer. Hein. Alors, il y avait des. Alors, puis les mortiers sortaient de salaud. Et ils étaient à droite, ces salauds-là. Ils étaient à droite. Moi, je me rappelle, j'arrivais sur un plateau, ils m'ont repéré avec mon groupe. On était, quoi, 12. Ah, j'ai compris. Heureusement que mon père était un ancien artilleur qui m'avait dit, dans l'artillerie, le premier coup est trop long, le deuxième est trop court, et le troisième doit être au but. Alors, on a eu le premier devant, le deuxième derrière. Je dis, cette fois, les gars, il y avait un petit muret, 100 mètres à gauche. Eh bien, je les ai sauvés, et ma peau aussi. Parce que, bon, là, quand on est quitté, qu'est-ce qui est tombé, hein? Enfin, c'est comme ça.
Question.
Comment ?
Attendez,
je n'entends pas.
Si on a failli se faire prendre.
Oh, ben ça, oui.
Oui,
quand on était armée secrète à Lyon, ça pouvait nous tomber dessus d'un moment à l'autre.
C'est le risque permanent ?
C'est le risque permanent. Alors, dans la maison où j'étais, on avait un petit papier blanc gros comme ça. Et on le mettait derrière le Judas. Vous savez ce que c'est qu'un Judas? Les Judas lyonnais anciens, c'était des petites barrettes en laiton à travers lesquelles on pouvait se parler du palier à l'intérieur. Alors il y avait un tout petit bout de papier comme ça. Ça voulait dire c'est bon, vous pouvez rentrer. Et parce que le truc de la Gestapo ou de la milice, c'était de rentrer, d'arrêter les gens qui étaient quand ils étaient dénoncés. Qui était dans l'appartement, de s'y installer, puis d'attendre les gens qui venaient. Alors, hop, Paris, c'est la bonne souffle. Et comme on avait été averti de ça, ce bout de papier, quand il y était, ça voulait dire, vous pouvez entrer, vous pouvez sonner et rentrer. Et alors, évidemment, c'était très facile à faire tomber, parce qu'il faisait ouvrir la porte par un gars qui avait le revolver dans le dos. Alors, ce n'était pas le moment de faire grand chose, mais ça, en cachant un peu le truc, on pouvait très bien le faire tomber, et c'est ce qu'on avait fait en cas de. Quand on a eu une alerte une fois, ah oui, je vous raconte ça, j'ai été. Je m'excuse ma foi, mais enfin mes jambes commencent à se filer. J'ai été alerté par. On était alerté par une résistante. Une co-créatrice de réseau qui avait été créé, un réseau franco-anglais qui avait été créé à Bordeaux en 40 et avec un colonel de l'armée française. C'est une bonne femme qui m'arrivait là, hein, une battante. Et ils avaient failli se faire arrêter à un certain moment. Alors les Anglais les ont emmenés en avion en Angleterre, où ils ont été entraînés tous les deux, mais alors avec l'intelligence service, et ce qui a probablement permis de s'évader des griffes de la Gestapo à Limoges. Elle a été arrêtée à Limoges. La Gestapo l'a emmenée, alors là, elle a simulé, probablement entraînée qu'elle l'était, une crise d'appendicite tellement bien que même le chirurgien de Limoges ou la Gestapo, parce qu'elle a fait son cinéma parfaitement, qui voulait la faire parler, c'est pas le moment de laisser claquer d'une appendicite. Alors il l'avait emmené se faire opérer. Alors, le chirurgien a les symptômes, parfait, on opère, ils l'ont opéré. Et le lendemain, on lui avait caché ses vêtements, bien entendu, mais le lendemain quand même, elle a réussi à faucher un marteau dans un coin, je sais pas, dans un vestibule ou je sais pas où. Et en pleine nuit, elle s'est sauvée de l'hôpital. Et dans la nuit, elle est allée frapper aux portes des habitations qui étaient autour, jusqu'à ce qu'une brave femme, c'était risqué, mais enfin, tout pour le tout, hein, elle savait qu'elle allait y passer, une brave femme l'a fait entrer, l'a soignée, l'a nourrie, et puis l'a habillée. Et cette femme, c'était une amie de la personne qui m'hébergeait à Lyon, ainsi que son fils, bien entendu, avec qui j'étais copain. Et un soir, on a vu arriver cette fille, habillée comme pas deux à l'époque, elle avait sur elle des vêtements, vous ne ramasseriez pas ça dans une poubelle, ce serait impossible à trouver. Mais, et puis alors les cheveux teints parce qu'elle était très brune, elle était blonde, elle avait des lunettes noires, mais moi j'avais vite remarqué, j'avais 25 ans à l'époque, même pas, qu'elle avait des yeux qui me plaisaient beaucoup. Maintenant, elle a 90 ans, on se téléphone à la vie de Paris, elle a trois gosses qui sont mariés, elle a des petits-enfants. Mais enfin, on se marre bien chaque fois parce qu'elle est très drôle. Et on vit tout le temps, il ne faut pas croire, on était jeunes, c'est pas parce qu'on risquait notre peau qu'on ne s'amusait pas, on s'amusait beaucoup au contraire. Même par réaction, on s'amusait. Alors, on pouvait même justement passer par des gens qui n'étaient pas concernés du tout. C'était un bon camouflage. Et donc, elle est arrivée en disant, ben voilà, je me suis évadé de la Gestapo, et c'est grâce à Madame Untel que j'arrive là, parce que c'est une de vos amies, qu'elle dit à la dame qui m'hébergeait, Madame Sermonard. Et alors, Madame Sermonard dit, bon, ben, ça doit être vrai, puisque c'est cette dame. C'est déjà quelque chose. Maintenant, méfions-nous toujours. Alors, on a enlevé le petit papier. Pendant 8 ou 15 jours, on n'a plus personne, les copains. Ils ont envie de filer en venant sonner à notre porte, les gens du réseau et tout ça. Et puis, on a attendu en disant, nous, résistants, oui, oh, bien sûr, De Gaulle avait raison, bien sûr, mais enfin, c'est trop dangereux. Vous pensez bien qu'on ne veut pas se mettre à faire de la résistance. Enfin, on a fait de cinéma pendant. Puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'elle avait raison, qu'elle était vraiment une pauvre femme qu'il fallait secourir. Du coup, on est rentré dans son réseau, elle a retrouvé ses copains qui étaient très méfiants parce qu'elle avait été élevée par l'intelligence service. J'aime autant vous dire que les précautions, et on avait plutôt deux qu'une, hein, et pour retrouver son réseau, ça n'a pas été simple. Alors, d'autant plus qu'elle aurait pu être retournée éventuellement par la Gestapo, c'est ce qui arrivait dans certains réseaux. Hein. Alors, comme c'est arrivé à ce pauvre type. Hardy, le fameux Hardy qui a dénoncé de l'Est, probablement
Jean Moulin,
hein, retourné parce qu'il s'est fait agripper par une belle fille qui était un agent de la BVR, c'est-à-dire la Gestapo, et qu'il a dénoncé. Il a été retourné parce qu'elle s'est fait, elle a dit si tu me dénonces, enfin, si tu fais pas ça. C'est moi qui y passe, quoi. Il était tellement amoureux qu'il a dénoncé Rex, qui était donc Jean Moulin. Ouais. C'est pour voir, il en est mort d'un cancer, d'ailleurs. Il a dû le ronger. Mais même, tu vois, Guilin, qui était l'agent de liaison, notre ami Guilin, qui est le président de notre association, était l'agent de liaison du général Delestin, qui était nommé par De Gaulle chef de l'armée scouts de toute la France.
Vous parliez de risque. Le risque, il était permanent.
Ah oui.
On transportait des journaux quand on sortait du lycée. On avait tous un petit paquet de journaux à distribuer. Ça m'est arrivé de transporter un pain de plastique. Et puis une fois une mitraillette, Morin s'en rappelle, parce qu'on avait confié notre valise à un soldat allemand au théâtre Pateau, il y avait la mitraillette dedans. Bon, le risque était constant, même pour des petites choses. Il était constant parce qu'il y avait des Allemands partout, et puis les polices, quoi. Donc la police française, la Gestapo,
et puis les gens qui n'en étaient pas.
La milice et les délateurs. Alors peut-être y a-t-il besoin de faire un petit topo sur les délateurs. La France a été pétiniste, puis ensuite elle a été gaulliste, mais elle a été aussi délatrice. Le nombre de gens qui ont mouchardé, vous allez être surpris. On a retrouvé, et c'est certainement inférieur à la réalité, 2 millions de lettres de dénonciation. Et le nombre est certainement plus élevé que ça parce qu'il y en a pas mal qui ont passé à l'as. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dénonçaient. Ils dénonçaient leurs voisins pour une histoire de voisinage, de jalousie, vous avez une lettre anonyme. Ils dénonçaient quelqu'un qui écoutait Radio Londres.
Femme cocu qui dénonçait son mari.
Oui, c'est ça. Il dénonçait un instituteur qui avait une réputation de. Ah. Enfin, il y avait de la délation partout, et la Gestapo avait monté tout un réseau. Je prends l'exemple de mon coin, Bellegarde Pays de Gex, il y avait pour ce secteur un chef de la Gestapo qui était connu, qui ne se cachait pas. C'est un Français, Je suis le chef de la Gestapo. Mais il avait sous ses ordres tout un réseau d'indicateurs français, mais qui n'était pas dévoilé, et qui était chargé de tendre l'oreille un peu partout, d'essayer de recueillir des confidences, etc. Donc, on était menacés constamment par tout ça. C'est comme ça, d'ailleurs, que mon père a été pris. Il était responsable de l'AS à Bellegarde, et il s'est occupé d'un commando spécial, commando qui faisait les tâches particulières. Et un des membres de ce commando a commis l'imprudence de faire une confidence à un copain à lui, qui n'était pas de la résistance. Non. Ils étaient bien copains. Alors, pour se faire valoir un peu, il a dit « Oh, ben nous, on fait ceci, on fait cela. » Et quand on circule, on va chez Marinet, on va chez Pouchois, à Bourg, et les Pouchois. Bon, alors, dénonciation. La Gestapo vient arrêter mon père chez lui. Elle arrête deux personnes dans le pays Gex et Lucien Pouchois à Bourg. Bon, ça, c'était sur une dénonciation. Ils sont tous partis en camp. Et il en est rentré un seul. Mon père est mort au Chauteauf. Les autres sont morts à Dachau, de froid, de faim, d'épuisement par le travail, d'absence de soins, etc. Tout ça à partir de la dénonciation d'un pauvre type, d'un type qui a fait ça pour un petit peu d'argent. Alors ce risque-là était permanent. Et puis quand on circulait, bon, je prends le train à Bourg le samedi soir pour rentrer chez moi, j'ai quelque chose dans ma valise. Hein, journal ou plastique ou autre. À la sortie de la gare à Bellegarde, il y a un piquet d'Allemands qui surveille la sortie. Il y en a un à l'entrée de la gare à Bourg, mais il y en a un à la sortie. Et de temps en temps, ils font ouvrir les valises. Comme faisaient les douaniers d'ailleurs. C'est le même truc. Donc c'était à pile ou face. Hein. Je passe pas, il ouvre ou il ouvre pas. Et ça, c'était un risque permanent. Mais on s'habitue à ça. On a toujours une appréhension, on a toujours un peu peur, mais on vit avec et on s'y habitue. Donc, il n'y a pas moyen de faire autrement, il fallait bien communiquer d'une manière ou d'une autre. J'ai transporté le plan vert du secteur de Bellegarde à destination de Ravignan à Oyonnax. Ça devait passer par Ritou à la Cluse. Il était roulé très serré dans le tube de Marcel, j'y suis allé en vélo. Et il était dans le tube de Massel. J'ai été arrêté par une sentinelle allemande dans le secteur du lac Silan. Ah, oui. Pas arrêté méchamment, hein, arrêté, contrôle d'identité. Et il n'a pas eu l'idée de démonter le vélo. Bien sûr.
D'accord. Heureusement. C'est comme moi en Berrieux avec ma valise où j'avais des munitions dedans. Je me faisais poser souvent. Quand je rentrais de Lyon, le garde en Berrieux. Puis j'avais perdu l'habitude de me méfier. Quand je rentrais à Lyon, j'avais du ravitaillement que ma mère me confiait. Et puis quand je rentrais, habituellement, j'avais rien dans ma valise. Puis ce jour-là, j'avais des munitions un peu spéciales. Et puis dans un chien, je débarque en Berrieux, mince, les Allemands là, qui bloquaient la sortie de la gare. Même à l'intérieur de la gare, pas moyen, je regarde partout, pas moyen de passer ailleurs. Il y avait des soldats avec le fusil à la main, la crosse sous le bras. Oh, ça sent mauvais. Puis je regarde bien. Il en fait ouvrir, c'était le Feldwebel, c'est-à-dire le sergent de l'équipe. Il faisait ouvrir une valise sur deux. Puis je regarde, oh, attends, voir, je regarde vite, ça va peut-être. Enfin, il y a 50 cent sur 100 au début. Puis à mesure que je me suis approché, j'ai vu que j'allais peut-être passer entre. Et je suis passé entre. Là, ça fait plaisir, ça. On est content. On souffle, mais pas trop vite, parce qu'il ne faut pas éveiller l'attention.
Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de l'intrusion de la milice au lycée ? Non. Non.
Bien. Concentration.
Alors, ça se passe la veille du débarquement, ou l'avant-veille, le 5, je crois. Le 5, il y avait la dernière épreuve du bac deuxième partie. On passait le bac en deux parties. Dernière épreuve du bac deuxième partie qui se passait au lycée. le matin de ce jour, nous étions 5 dans une traction avant, dont 3 lycéens. Et on avait pour mission de faire un hold-up. Excusez-moi, un hold-up. On devait faire un hold-up, oui. On devait braquer le caissier de la trésorerie générale. Il y avait beaucoup d'argent, sur ordre du colonel Roman. Ça s'explique d'ailleurs. Le colonel Roman n'avait pas reçu beaucoup d'argent de Londres. Il savait que le débarquement allait avoir lieu dans un jour ou deux. Il s'attendait à un afflux de gens de l'armée secrète dans les maquis. Donc, au lieu de 500 bons hommes, il allait avoir affaire à 4 à 5 000 personnes qu'il fallait nourrir, etc. Il fallait de l'argent. Donc, où est-ce qu'on prend l'argent? Ben, on le prend où il y en a, dans les caisses du gouvernement de Vichy, c'est-à-dire la trésorerie générale. Alors, notre organisation, les Fuges, monte un coup. On était en traction avant, bien entendu, traction avant noire. 5 dedans, dont 3 lycéens, Guettet, Guillon et moi. Et on se met en embuscade dans une petite rue, là derrière, pour attendre que le caissier, la trésorerie générale, arrive. Il venait de la banque de la Banque de France, qui est près de la gare. Et on devait l'intercepter. Alors, j'ai jamais su qui avait vendu, comment ça s'était vendu, mais au lieu de voir arriver le caissier, eh ben on a vu arriver un camion de miliciens qui ont sauté en bas du camion. Un autre groupe de miliciens est arrivé par derrière, la petite rue, si bien que la traction avant était prise entre deux feux, pas par des Allemands, par des miliciens. Alors bon, ça... Et moi, je n'étais plus dans la traction, parce que Guillaume m'avait envoyé en avant pour voir si le type arrivait. Si bien que j'ai pas été dans la fusillade. J'ai pu m'en sortir comme ça. Alors, fusillade, deux copains blessés, arrêtés. Bon, Guillon et l'autre réussissent à s'enfuir. Moi, j'étais hors du coup, 50 mètres plus loin. Bon, Roger Guettet était blessé, Poney aussi. Apparemment, grièvement, en réalité, ça saignait beaucoup, mais c'était pas grave. Alors... On s'est dit, ils sont blessés. La règle, c'est que tout type qui est arrêté, blessé ou pas, est susceptible de parler. Oui. Quel que soit son courage, ces gens-là, la Gestapo et la milice, avaient les moyens de faire parler n'importe qui à la torture. Ils étaient très inventifs. On s'est dit, ils sont blessés, ils sont affaiblis, ils vont parler. Alors, j'ai réussi à envoyer un émissaire au lycée, auprès de Figuet, pour leur dire, puisque j'étais libre. Et je ne voulais pas aller au lycée, puisque je m'attendais à ce que la milice arrive, pour leur dire, ce matin, on a eu un accrochage, il y a des prisonniers, ils vont probablement parler, il faut partir tout de suite. Alors ils se sont réunis, les 10 qui étaient résistants là-dedans, ils se sont réunis, puis ils ont dit non, il nous reste une épreuve, on va la passer, il ne va pas venir tout de suite. Manque de peau, pendant l'épreuve, la milice est arrivée. Je crois que c'était peut-être une cinquantaine, font irruption dans les salles de classe, tout le monde dehors, 50 lycéens et lycéennes alignés contre le mur dans la cour d'honneur, fusil mitrailleur en batterie en bas, et puis fouille systématique du lycée, ils ont malheureusement trouvé une carte d'état-major dans un casier, et tout le monde, coup de poing, coup de pied à terre, etc. Ils ont trouvé le surveillant général, qui a été roué de coups aussi, bourgeois. Et puis, à la fin du compte, donc à cause du coup de main du matin, à la fin du compte, ils en embarquent 50, y compris les profs, dans un camion. Ils les ont emmenés à Saint-Amour, parce que là, à Saint-Amour, s'était établi le chef de la milice mobile. Il y avait une unité de milice mobile, et puis il y avait des miliciens locaux. D'Agostini, le célèbre D'Agostini, qui était une vraie bête sauvage. Il les a emmenés à Saint-Amour, et puis alors là, bon, la baston, coup de pied, coup de poing, coup de ceinturon, à poil. On commence par mettre le type à poil. Ça vous descend le moral. Puis après, donc, des coups de tous les côtés, des coups de ceinturon avec la boucle du bon côté. Et puis, ils leur ont montré Roger Guettet sur une civière qui n'avait pas été soignée, qui n'était pas le commun mort. Tu vois comment il est, lui? Ben, tu seras comme ça tout à l'heure. Bon, enfin, ils ne les ont pas tués. ils les ont ramenés à Bourg, ils ont enfermé à l'hôtel d'Europe, dans les caves de l'hôtel d'Europe. Ils ont resté là quelques jours. Et puis, ensuite, ils ont été embarqués, ils ont été remis entre les mains des Allemands et déportés. Et c'était des Français. Et tout ça est arrivé parce que dans le lycée, il y avait un lycéen milicien, mais qui n'était pas connu comme tel. On ne se méfiait pas de lui. Il n'adhérait pas à la résistance, il se contentait d'être là et puis de tendre un peu l'oreille, hein, des conversations comme ça. Et il avait réussi à faire une liste de 10 lycéens qui faisaient partie de la résistance. Et cette liste, donc, il l'avait donnée à ses amis de la milice. Et comme il y avait eu la bagarre le matin, ça a été le bon prétexte pour faire une descente dans le lycée. Et donc, il y en a 11 copains qui ont été remis entre les mains des Allemands par la milice locale.
Pourquoi ceux qui se faisaient prendre ne disaient pas des faux noms ?
Comment ?
Pourquoi ceux qui se faisaient prendre ne donnaient pas des faux noms aux Allemands ?
Des faux noms ? Si, on avait tous des faux noms.
Mais c'était facile. C'était facile pour les Allemands de contrôler. Sur les grands chefs, ça leur a été plus difficile parce qu'ils avaient vraiment des identités, c'était chadé comme tout, c'était difficile à contrôler. Mais des gens comme nous, une carte d'identité fausse, plus ou moins mal faite, ils avaient vite fait de dévoiler le truc. Oui, à ce propos, sachez que, justement, à cause de tous ces gens qui vivaient dans la clandestinité, qui étaient menacés d'être arrêtés, d'être dénoncés, qui avaient des fausses cartes, la résistance s'était transformée en une formidable machine à fabriquer des fausses cartes d'identité. Mais des fausses cartes parfaitement bien imitées, parfaitement vraies. Il y avait toute une organisation qui fabriquait des fausses cartes.
Il fallait déjà être dans les cadres de la résistance.
Ouais. Moi, j'ai connu à Bellegarde le secrétaire de mairie, Frédéric Prandini, un homme avec un gros bras, un peu pépère, bien tranquille. Il n'avait vraiment pas l'air d'un guerrier. Hein. Il avait réussi à récolter auprès de ses amis secrétaires de mairie dans toute la France un certain nombre de tampons de mairie. Il avait caché ça, il me l'avait montré. Il y avait une latte du plancher de son bureau qui pouvait bouger et tout son matériel était caché sous le parquet. Et il fabriquait des quantités de cartes, de fausses cartes qui avaient toute l'apparence d'être des vraies. Il y avait comme ça plusieurs filières. Le maire de Bellegarde avait aussi une filière à la préfecture. Donc, fabrication de fausses cartes. On avait des faussaires du tonnerre de Brest.
À Lyon, on m'en a donné une, mais bon, c'est même moi qui me l'ai faite, mais je l'ai gardée. Mais j'aurais été arrêté parce que vous avez tellement mal fait, j'écrivais comme un chat alors que les secrétaires de mairie faisaient des belles fioritures. Moi, j'ai écrit comme,
non, mais c'est surtout
comme
les...
un cochon. Alors,
c'est surtout les chefs importants qui avaient
des bonnes cartes. Quoi.
Des bonnes cartes et un nom de guerre qui changeait. Ils ont changé souvent.
Quel genre de personnes faisaient partie de la milice et est-ce que vous les connaissiez des fois ?
Oui, ils étaient bien visibles, hein, ils patrouillaient en ville, l'arme à la main, et ils ne se cachaient pas. Hein. Enfin, sauf celui qui nous a dénoncé au lycée, mais il était là pour ça, lui. Oui, on les connaissait. Bon, c'est des gens de toutes sortes. Hein. Des gens de toutes sortes. J'ai une liste là. Il y a des gens de Seyssel. Il y avait un petit groupe de Seyssel. Il y avait un groupe assez important à Belay. Alors, ils étaient tous rassemblés à Bourg. Hein. Des gens de la région de Bourg aussi. Il y avait de tout là-dedans. Des jeunes, des vieux, des jeunes qui s'étaient laissés monter le cou, des bonnets, quoi, qui n'avaient pas compris, qui étaient rentrés là-dedans comme ça. Si vous voyez un jour le film Lacombe Lucien, vous comprendrez. Vous n'avez pas vu ce film ? Vous le reverrez peut-être, il est déjà un peu ancien. Où on montre un jeune homme un petit peu... pas barjo, mais pas bien malin, se faire embaucher dans la milice, alors qu'il aurait aussi pu être embauché au maquis, et qui s'est mal comporté parce qu'il était dans l'ambiance. Oui, il y avait toutes sortes de gens, hein, des adultes, des gens bien établis. Des... Oui.
Pourquoi il y avait des Allemands dans là alors qu'on était en zone libre ?
Ah ben parce que les Allemands ont vu la zone libre à partir du jour du débarquement américain en Afrique du Nord. Vous avez peut-être appris ça. En 42, c'était le 11 novembre 42.
Les Allemands ont franchi la ligne de démarcation et ont occupé toute la France. Alors qu'avant, il y avait quand même la zone dite libre, entre guillemets, mais qui était dirigée par Pétain, qui était un fasciste.
Après, c'était encore. C'est à partir de là, d'ailleurs, que ça commençait à être vraiment le plus sérieux, le plus dangereux.
Oui, parce que.
Déjà, en 1942, la police française, il y avait déjà beaucoup de policiers eux-mêmes qui travaillaient, qui restaient dans la police. Mettez-vous à leur place une femme, deux gosses ou trois gosses à nourrir. Si on supprime le traitement, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, ils étaient là policiers, mais c'était pas très enthousiaste pour arrêter des résistants. Au contraire. Et moi, je sais qu'on a eu des gendarmes qui nous ont aidés tant et plus. On a fait prisonnier une compagnie de CRS à Pondin. Avec armes et bagages, ils sont passés au maquis.
Ouais, ils n'avaient pas très envie de se battre, ceux-là.
Enfin, ceux-là n'étaient pas dangereux.
La milice, c'était pas ça.
Il y avait des chefs aussi qui étaient des dangereux.
C'était vraiment des méchants. Je ne peux pas vous la montrer parce que c'est pas beau à voir, mais je pourrais vous montrer la photographie de la dépouille d'un jeune Bressan qui s'appelait Bobby Gaillot, qui a été martyrisé par la milice, qui a jeté ensuite son corps dans une rue à Perona. Eh bien, des petits Français qui ont fait ça. Hein. C'est pas, je ne peux pas vous le montrer. Tellement il est abîmé. Tellement il a été massacré pour le faire parler. Et le pire, oui, ça m'amène à l'histoire de l'hôpital de Nantua.
Ah oui.
Pendant une longue période, du mois de juin jusqu'à la mi-juillet, tout le secteur du Haut-Bugey, donc capitale Nantua, était occupé par les maquis et pas d'Allemands. Et l'hôpital de Nantua fonctionnait pour soigner les blessés du maquis. Et Bobby Gaillot avait été blessé dans un combat contre la milice près de Bourg, emmené à l'hôpital, mais très gravement blessé, on parlait de lui couper la jambe. Alors la milice l'a mis à l'hôpital, mais elle ne s'est pas donné la peine de le surveiller. Mais il avait d'excellents copains qui ont monté un coup fumant le soir et qui sont allés le récupérer. Ils ont pénétré clandestinement dans l'hôpital, qui l'ont sorti par derrière, qui l'ont emmené dans une benne de paysans, puis dans une voiture, jusqu'à l'hôpital de Nantua, qui était tenu par les maquis. Mais le 14 juillet, les Allemands ont attaqué très fortement tout le département.
Le 11 juillet.
Et ils ont pénétré jusqu'à Nantua, bien sûr. Et les miliciens étaient avec eux. Alors les Allemands, en arrivant à Nantua, sont tout de suite allés à l'hôpital. Et ils ont récupéré les blessés du maquis. C'était facile, hein, ils étaient blessés, ils étaient couchés. Tous ceux qui n'étaient pas transportables étaient là. Ils les ont pris, ils ont mis dans une benne de camion.
Ils les ont
conduits à quelques kilomètres de là, à Brion. Ils ont déversé tout ça dans la carrière et ils les ont achevés à terre. Mais parmi ces blessés, il y avait Bobby Gaillot qui avait été blessé dans un combat avec la milice. Alors les miliciens qui accompagnaient les Allemands ont dit « Celui-là, nous, on le veut, il est à nous. » Donc ils ont récupéré Bobby Gaillot, ils l'ont ramené à Bourg et là ils l'ont martyrisé. Il était en loc, il était en petits morceaux quand ils ont jeté son corps dans la rue. Oui.
Vous aviez des mouchards, vous, dans la Gestapo, dans la milice?
Dans la milice, il y avait un faux milicien. Il y avait un faux milicien, mais je ne sais pas qui c'était. Et c'est Colette Lacroix qui m'a dit ça.
Ah, oui.
Donc le groupe JAG avait un indicateur au sein de la milice. Mais ça n'a pas...
On n'y pensait pas, ça.
Ça n'a pas servi beaucoup. C'était quand même difficile. Hein. Dans la gendarmerie, oui. Dans la gendarmerie, on avait pu repérer des gendarmes qui n'étaient pas de furieux pétinistes. À Bellegarde, le commissaire de police est entré dans la résistance dès 1943, à Montréal. Le malheureux, il a été tué après. Hein. Mais commissaire, c'était vraiment utile. Mais il ne savait pas tout. Les vrais dénonciateurs de la Gestapo ne disaient pas aux Français, même si les Français leur semblaient favorables. Quoi. Donc ils ne pouvaient pas déjouer toutes les dénonciations. Et, un exemple de brave Français un peu gros, un peu père tranquille, qui a joué un rôle, c'est le propriétaire de l'hôtel de la Colonne à Bellegarde, M. Doucet. Son hôtel était occupé par la commandantour. Les Allemands avaient réquisitionné l'hôtel et il y avait là la commandantour qui a été déplacée après. Et sous prétexte de passer dans l'hôtel voir si les femmes de ménage avaient bien fait tout comme il faut, il lui arrivait de passer dans le bureau du chef, la commandanteur, et puis de guigner les choses qu'il pouvait voir sur la table. Et comme il a pu comme ça éviter quelques arrestations. Il repérait des trucs, il descendait tout de suite à la coopérative en dessous, il y avait mon père, pour lui dire ce qu'il avait vu. Il achetait une bricole pour camoufler le truc, et il disait, attention, il y a une lettre comme ça sur le bureau du chef. Un bon pépère tranquille qui rendait service comme ça.
Ouais, c'est utile.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé pour les miliciens après la guerre ?
Ce qui s'est passé, donc tu parles de ce qu'on a appelé l'épuration. Non, c'est le terme qui a été employé. Après la libération, tous ceux qui avaient collaboré, qui avaient mouchardé et autres, étaient susceptibles d'être jugés. Alors, je dis tout de suite qu'à ce sujet-là, il y a eu d'énormes mensonges. Un écrivain d'extrême droite qui s'appelle Maurras avait lancé en France le bruit que l'épuration, soit légale par des tribunaux, soit épuration sauvage par les maquisards, avait fait 100 000 morts. Alors le général de Gaulle lui-même a tenu à intervenir en public pour rétablir les chiffres. Il y a eu environ 10 000 personnes qui ont été fusillées pour fait de collaboration. Mais il y en a infiniment plus qui ont échappé.
Ils sont partis avec les Allemands en général.
Les miliciens sont partis avec les Allemands.
Puis après, s'ils sont revenus en France, il y en a qui sont embauchés en Légion étrangère. On ne vous demande pas votre identité. Là. Ils sont embauchés, ils sont camouflés. Il y en a beaucoup qui ont survécu. Puis,
oui.
Puis 20 ans après. Ben,
ça... Et ceux qui ont été jugés ont toujours été jugés avec beaucoup de mansuétude.
Maintenant, il y a eu aussi un phénomène qui n'est pas à la gloire des soi-disant résistants, parce que moi, je n'ai jamais pu faire ça. Mais à la libération, les femmes qui couchaient avec les Allemands, il y en a
qui ont été
tondues.
Oui.
C'est vrai. Mmh. Il y en a eu.
Moi, je n'ai jamais vu. Je n'en ai pas vu.
Moi,
et quand on
nous moi en... non plus, mais enfin...
Quand on nous voit ça dans la figure, je dis oui, c'est pas bien. Si j'avais pu voir ça et l'empêcher, je l'aurais fait.
Oui.
Mais pensez aussi à nos copains qui ont été mutilés, massacrés, à qui on arrachait les yeux, etc.
Ouais.
Hein? Alors
les cheveux, ça repousse, hein, mais oui. Pas les yeux ni la bouche.
Bon, c'est sûr que ces femmes ont subi un horrible traumatisme, mais...
Quelquefois, c'était pas justifié.
Quelquefois, c'était aussi des règlements de compte particuliers. Mais ça a été vite arrêté parce que la politique du général de Gaulle, dès la libération, ça a été de calmer tout ça. Et là, donc, les fonctionnaires pétainistes qui ont fait beaucoup de mal sont restés en place. Il n'y en a qu'un qui a été jugé, c'est Papon.
Oui, et 20 ans après.
Oui, il est quand même mort sa belle mort. Hein. Oui. Mais enfin, il a été jugé, oui, 80, 60 ans après, par l'obstination d'une de ses victimes. Et il y a une de ses victimes, un juif, qui s'est battu toute sa vie pour faire passer Papon en justice. Ça a été une histoire phénoménale. Mais il y en a des milliers d'autres qui ont été plus ou moins collabos. Ça a passé comme ça. D'ailleurs, Papon figure derrière De Gaulle au balcon de l'hôtel de ville de Bordeaux au moment de la libération. Alors, on peut dire que l'épuration, il y a eu quelques erreurs regrettables, des règlements de compte par des gens qui étaient des résistants de la dernière heure, mais en petit nombre par rapport à tout ce qui s'était passé avant. Hein. 100 000 fusillés avant, hein, des résistants, plus les morts en combat. Damien, quel sujet aurais-tu on aurait pu développer encore ?
Peut-être sur la votre fin de guerre, c'est-à-dire à partir du moment où tu es dans le maquis, qu'est-ce qui se passe ?
Donc, alors, en ce qui concerne le lycée, il y a eu ce que j'appelle une faute de commandement de la part du lieutenant de la compagnie. Enfin, c'est ce que je pense, je le dis clairement. On devait être 60. A quitté le lycée pour monter au maquis, deux trentaines. Bon, il y a eu le bac, et après le bac, tout le monde rentre chez lui. Donc il aurait fallu qu'avant le bac, les chefs, sachant que le débarquement était imminent, au moins une semaine avant, ils savaient que ça allait arriver, ils auraient dû nous donner des consignes en nous disant « Le débarquement va avoir lieu. Si vous êtes rentré chez vous, rendez-vous à tel endroit. » Alors ça n'a pas été fait. Et moi, je me reproche, en tant que chef de trentaine, de ne pas avoir demandé l'enseignement.
Moi, c'est pareil.
Je n'ai pas pensé à demander l'enseignement. On est embringué dans cette histoire de la trésorerie générale. J'aurais dû demander au lieutenant, mais tout le monde s'en va, là, le bac est fini. Qu'est-ce qu'on dit aux copains? Comment on les retrouve? Si bien que la compagnie Fuge, qui était dans les maquis, a comporté un petit nombre de lycéens. Les autres qui étaient rentrés chez eux, ben ils sont partis avec l'armée secrète de leur coin.
Ouais.
Parisien est parti avec son équipe. Moi, je me trouve à Bellegarde. Je suis parti avec l'AS de Bellegarde. On a fait notre boulot quand même, mais je regrette qu'on ne l'ait pas fait en étant groupé entre lycéens.
Moi, ça a été pareil à Lyon. Mon réseau, là, dont la fille là, qui avait repris son boulot, est parti de son côté, et on n'avait plus de nouvelles du tout. On n'avait plus rien à faire. Arrive le débarquement, je savais que mon frère était chef de l'AS du coin, là-bas, Neuville, Saint-Martin-du-Mont, et puis Ponsin, et puis qu'il avait tout organisé. On a même eu le dépôt d'explosifs départemental qui a été déplacé de la brasserie régionale qui était avec moi à la place de la grande poste avant. Il y avait plusieurs centaines de kilos de plastique. Bob Fournier, qui était le président de la brasserie, le directeur de la brasserie, il connaissait mon frère, ils avaient les mêmes idées. Ils s'en occupaient à moi. Et il avait dit un jour, dit non, moi j'ai été arrêté, j'ai fait le con, on m'a relâché, mais si jamais il fouille la brasserie, s'il tombe le stock départemental de plastique, je passe à la casserole. Alors mon frère, il va mettre ça à Neuville, Bosson, là-bas, on va camoufler ça. Et après, avec le vélo, le sac qui revient, il est allé distribuer les petits stocks de plastique pour faire sauter les voies et autre chose autour de Neuville.
Oui.
Donc, j'en ai jamais fait.
Donc, il n'y a pas eu dans les maquis de lin une unité, une section composée uniquement de lycéens. On s'est retrouvé quand même un certain nombre. La dernière bataille, c'est fin septembre, la bataille de Meximieux-la-Valbonne. Là, on s'est retrouvé quand même une demi-douzaine de lycéens. Donc, on est parti chacun avec le reste de notre pays et on a exécuté les actions qui étaient attribuées à le reste. Les ordres, c'était de couper toutes les communications. Barrer les routes, faire sauter les ponts, faire sauter les chemins de fer, faire sauter les locomotives, immobiliser les Allemands présents dans le département, les immobiliser sur place. Et puis l'objectif final, donc juin, juillet, août, avec en intervalle une grosse attaque à la mi-juillet sur l'ensemble du département. Où là, on a tenu les barrages ont tenu deux jours, et puis on s'est dispersé pour ne pas se faire tous détruire. On s'est dispersé, on a disparu par petits groupes dans la forêt. Et les Allemands ont cru qu'ils avaient réglé la question, ils ont surveillé les routes pendant quelques jours, et puis ils se sont retirés. Et à ce moment-là, on est ressorti de la forêt pour reconstituer les groupes. Moi, personnellement, donc j'étais à l'AS de Bellegarde. On faisait sauter régulièrement la route et le chemin de fer entre Bellegarde et Seyssel, parce qu'à chaque attaque, il y avait un groupe d'Allemands qui montait de Seyssel en même temps qu'un autre venait du Haut-Jura.
Oui, il y a même un train entier qui a été balancé dans l'Albarine.
Oui. Et puis à la fin, donc, la dernière grosse bataille du groupement sud, le bataillon Klein, c'est à Meximieux-la-Valbonne. On nous avait rassemblés là pour aller sur Lyon, pour empêcher la retraite de l'armée allemande qui fuyait devant le débarquement en Provence. Le 15 août, une armée américaine et française a débarqué en Provence. Il y avait Toulon là, base de sous-marin. Les Allemands ont fini par s'enfuir, remonter dans la vallée du Rhône. Leur objectif, c'était de remonter assez vite pour rétablir une ligne de front avant avant l'Alsace. Et on devait, nous, depuis Meximieux, aller sur Lyon et couper la route. Alors, il leur fallait 2 jours pour finir de partir. C'est donc la 11e division Panzer, du tank, qui nous a attaqués à la Valbonne-Meximieux. Ils se sortiraient au bout de 2 jours. Les Américains étaient là, mais en petit nombre, c'était une avant-garde. Mais le gros de la troupe, c'était le bataillon Klein, 5 compagnies. Alors, bataille à la Valbonne, puis ensuite bataille dans Meximieux. Ils ont failli faire prisonnier les Américains en particulier. Et puis, ils se sont retirés. Ils ont perdu, je ne sais pas combien de chars, en tout cas 2 chars dans Meximieux. Ils se sont retirés parce qu'ils avaient atteint leur objectif. C'est-à-dire qu'ils nous avaient empêchés d'aller sur Lyon. Et pendant ce temps-là, ils ont pu remonter la vallée du Rhône et de la Saône pour aller plus loin.
Oui, parce qu'ils étaient... En ayant débarqué le 15 août en Provence, les premières troupes américaines étaient en Berrieux, je me rappelle très bien, le 29 août.
Oui.
Donc pas mis 15 jours pour être en Berrieux.
Oui, si on vous dit un jour, oh, la résistance n'a pas servi à grand-chose, il y a des gens qui disent ça, qui l'écrivent même. Je prends l'exemple du débarquement en Provence, le général américain qui dirigeait ce débarquement, dans sa feuille de route, il avait... atteindre Grenoble en 90 jours. Or, grâce à l'action des maquis des Basses Alpes, des Hautes Alpes, de la Drôme, etc., qui avait nettoyé le terrain, il est arrivé à Grenoble en une semaine à peu près.
Est-ce que, en dehors de vos actions de contre-propagande et de sabotage, vous avez eu à combattre des Allemands ou des miliciens?
Oui, c'est ce que je suis en train de dire là.
Mais, vous étiez armé, vous deviez...
Oui, oui, alors, oui. À partir du débarquement, là, on était formés en compagnie avec un lieutenant, etc. Et l'armement, c'est-à-dire soit des mitraillettes, soit des fusils. Oui. Et puis quelques fusils mitrailleurs.
Oui, ah, c'était les meilleurs.
Une compagnie, ça fait combien d'hommes?
Une compagnie, oh, pour nous, c'était une centaine d'hommes environ.
Oui, par là.
Une centaine.
Et des sections, une douzaine?
Une section d'une douzaine, oui. Pour la bataille de Trébillard, on a envoyé mon groupe le deuxième jour en renfort et on nous a donné des fusils, ouais. Pas des mitraillettes.
Oui, parce que
et heureusement, parce que là, on hausse à 200 mètres.
Ah oui.
Avec la mitraillette, on n'aurait absolument rien fait. Alors, deux fusils mitrailleurs et des fusils.
Avec un arrosoir,
on a tenu le barrage. On n'était pas tout seul, il y avait un autre groupe de côté. On a tenu le barrage pendant 2 jours devant 1600 Allemands. Le relief s'y prêtait. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, hein, mais il y a la rivière tout en bas, il y a le chemin de fer et la route. Et puis la route passe devant l'entrée du tunnel du chemin de fer tellement c'est étroit. Alors on a fait tomber, on a fait sauter la roche pour barrer la route. Là, ils étaient vraiment coincés, il n'y avait pas d'échappatoire, hein, c'est très étroit. Donc c'était une situation extrêmement favorable, qui a permis de tenir 2 jours. Il a fallu partir parce que les autres avaient percé au-delà d'Antua et ils arrivaient pour nous prendre à Saint-Germain, pour nous prendre par derrière. Donc là, ordre d'évacuation, selon le principe du colonel Roman. Il ne faut pas se laisser détruire, hein, on n'est pas à Verdun. Alors, on peut plus tenir le barrage, ordre d'évacuation, rendez-vous à Giron, dans la montagne, et puis ensuite rendez-vous au Cré de Chalam, tout en haut dans la montagne, où on est resté dans le bois. On n'avait rien à bouffer, en parenthèse, quelques jours, sans faire de bruit, pas se faire voir. Ensuite, les Allemands sortiraient petit à petit, donc on a pu redescendre.
Nous, on a fait quelque chose de complètement différent. Et hors des recommandations, parce
oui,
que je peux vous dire que c'était pas une organisation vraiment militaire. Les chefs de compagnie avaient beaucoup d'autonomie, et c'était la seule façon de faire, parce qu'il y a eu des chefs comme, je donne son nom, de maquis Gambier, pas Gambier, je voulais. Je n'ai jamais vu pendant les combats, quand ça pétait d'un côté, il fallait regarder de l'autre côté, parce qu'il était au PC.
Il y a une difficulté que vous ne pouvez pas mesurer. Vous avez tous probablement un téléphone dans votre poche qui vous permet de téléphoner aussi loin que possible, même à l'étranger. À l'époque, ça n'existait pas. Les gens qui avaient un téléphone particulier étaient très rares. Il y avait une cabine publique dans chaque village. Et pour passer un coup de téléphone, il fallait se rendre à la cabine publique. L'opératrice enfilait une fiche, tournait la manivelle. Ça appelait le central, donc chez moi ça appelait le central de Bellegarde, où il y avait une autre opératrice qui vous donnait avec une fiche le numéro que vous avez demandé. C'est-à-dire, il n'y avait pas moyen de faire autrement. C'est-à-dire qu'il suffisait d'un Allemand au centre de téléphonique de Bellegarde pour intercepter toutes les communications téléphoniques. Donc les maquis, une fois dispersés dans la montagne, n'avaient aucun moyen de communiquer entre eux, à part les agents de liaison à pied.
À pied ou en vélo.
À pied ou en vélo, enfin. Dans la forêt, valait mieux être à pied. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont fait ce travail. Parce qu'en cas d'arrestation, elles étaient moins suspectes. Les Allemands ne pensaient pas que des jeunes filles pouvaient s'embringuer dans ces histoires de résistance. Alors beaucoup de jeunes filles ont été des agents de liaison. Elles passaient les barrages allemands plus facilement, en principe.
Elles prenaient quelques sourires, ça.
Elles prenaient des risques considérables. Mais toutes les liaisons, donc, ça pouvait représenter 10, 20 kilomètres dans la montagne de marche à pied pour communiquer soit avec l'état-major, et comment, soit les groupes entre eux. Et si on avait eu des moyens de communication qui existent, comme il en existe maintenant, on aurait été infiniment plus efficace.
Oh, mais s'il y avait une guerre, ils casseraient les réémetteurs.
Mais oui, de toute façon, les réémetteurs seraient contrôlés. Quoi.
Mais moi,
donc, ça a été un gros problème, les liaisons.
On en avait deux de filles dans ma compagnie. C'était des filles comme ça, gentilles comme tout, sérieuses et tout. Mais on chahutait, mais il n'y a pas un qui a pu se dire « j'ai couché avec elle ».
Il y en a une dans le département qui a été très célèbre, c'est celle d'Oyonna. La fille d'Oyonna, les toutes les liaisons.
Ah oui, Jean-Jaco. Attends, non.
Oui, la famille, c'est la famille Jean-Jaco, mais c'est pas son nom.
Ah oui, ouais. Juliette, elle est célèbre.
La perte de mémoire des anciens, ça commence par les noms propres.
Ouais. Ah oui.
Cette fille a fait des liaisons pendant 2 ans dans toute la montagne et était comme hiver en pleine neige entre les camps. C'était une jeune fille plutôt frêle, mais qui avait une résistance extraordinaire, un culot monstre. Elle s'est jamais fait prendre et elle a assuré constamment les liaisons entre les camps dans la montagne.
Ah oui, ça, je tire le chapeau à ces filles. Hein.
Ah oui, extraordinaire.
Des filles comme ça.
Bon, il y avait aussi des filles qui étaient infirmières. C'était pas sans risque. Quand on a fui au mois de juillet, quand on est allé dans la forêt, il y avait la madame, celle de Antua, la femme du médecin.
Madame Mercier
qui est montée. Bon, elles avaient quelques blessés qui étaient cachés sous les sapins. Bon, si elles avaient été prises, les blessés auraient été achevés. Elles, les filles, auraient été déportées. C'est ce qui est arrivé au Vercors. Vercors, où il y a eu quand même une grosse, grosse bagarre. Il y avait un nombre important de blessés, hein, une vingtaine au moins, qui les avaient cachés dans une grotte. Quand ils ont été battus et qu'ils se sont dispersés, les intransportables, ils étaient dans une grotte, la grotte de l'Allure, je crois, avec les infirmières. Bon, les Allemands l'ont trouvée, elle figurait sur les cartes, la grotte. Les Allemands l'ont trouvée, ils ont achevé donc tous les blessés, et les infirmières ont été envoyées en déportation. Il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus parce qu'il est déporté, il en revenait très peu sur le nombre de ceux qui sont partis.
Juste une question, qu'est-ce qui se passe quand les copains rentrent de déportation, justement ?
Oui, alors oui, les copains qui sont rentrés de déportation, il n'y en a pas eu beaucoup d'abord. On ne les a pas crus souvent, on n'a pas mesuré ce qui leur était arrivé. Et eux avaient été tellement traumatisés, je vous dis, Paul Morin, 30 kilos au retour, hein, oui, donc la peau et les os. Ils avaient été tellement traumatisés qu'ils avaient beaucoup de mal à en parler. Ceux qui ont essayé d'en parler, ils n'ont pas été crus. On raconte l'anecdote suivante, le déporté qui est en famille, en fait, son retour, on lui dit, mais de quoi avez-vous le plus souffert ? Naturellement, la faim. C'est la faim. Il mangeait presque rien, il était tout maigre. Alors, réponse de sa famille, « Ah ben tu sais, nous, avec le rationnement, à des moments, on a eu faim aussi. Alors, bon, il s'est fermé, puis on n'a plus reparlé. On n'a plus jamais reparlé. Et puis d'autres, tu as connu Letnay, Damien. Hein? René Letnay, qui était un très bon ami, un de mes meilleurs amis. Quand il est rentré de déportation, d'abord pendant un an, il était dans le cirage, il était à moitié fou. Et puis, il n'en parlait pas. Lorsqu'on a commencé à faire nos échanges avec vous, il y a 6 ans, je pense, 6 ans,
plus,
à l'époque, on était plus nombreux. Alors, dans chaque classe, on mettait un déporté et un résistant, pour raconter. Alors, il s'est trouvé avec Pierre Couty, qui a parlé de la résistance, puis ensuite, c'était son tour de parler de la déportation. Il n'a pas pu dire un mot. Alors, à la sortie, Pierre Couty me dit, ben, ton copain, dis donc, il n'a pas parlé. Bon, alors je dis, ben, l'année suivante, il viendra, je le prends avec moi, parce qu'on était très liés. J'ai dit, moi, je vais peut-être pouvoir l'aider. Alors, même topo, je parle de la résistance, puis il dit, allez, René, c'est à toi, tu parles de la déportation. Puis je tape sur l'épaule, comme ça. Il a commencé à parler, il a prononcé 2 ou 3 phrases, il s'est étranglé la gorge, et puis ça a été fini. On n'en a plus reparlé. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il a commencé à parler. Il a commencé à oser en parler. Et lorsqu'on lui avait demandé son témoignage pour le livre notre livre, La résistance du lycée, que vous pouvez consulter au CDI, c'est composé de, ce n'est pas une histoire, ce sont des anecdotes. Chacun d'entre nous a écrit une anecdote sur la résistance ou sur la déportation, ce qu'on avait vécu. Alors, on demande à Letnay, René Letnay, on lui dit, tu vas nous faire un topo sur ta déportation. Il avait été à Dora, qui était un des camps terribles. Et voilà, en tenue de déporté. C'est moi.
C'est lui qui était là?
C'est lui, oui.
Ah bon, dis donc.
Eh bien,
voyons, le livre... Je n'ai jamais su. Attends, on le met. Ah, bon.
Le livre a été publié en quelle année?
Il n'y a jamais d'histoire dedans.
Je ne sais plus de l'année. Réédition en 96, oui. En 96, on lui a donc demandé de faire un petit topo sur sa déportation. On lui a demandé X fois. À la fin, j'ai fini par l'engueuler. Je lui ai dit, écoute, quand même... Il faut faire savoir ce que tu as vécu. Alors il m'a rédigé un bout de papier qu'il m'a envoyé, qui était presque illisible. C'était des mots jetés. C'était pas des phrases. Il avait jeté des mots. Et puis à la fin c'était presque incohérent. Il m'a dit tu te débrouilles avec ça. Alors j'ai demandé la permission de mettre par-ci par-là un point et une virgule sans défigurer le texte. Et le texte, donc, se trouve là-dedans. Et il ne parle que du voyage. Il ne parle que du voyage. Le voyage jusqu'au camp. Il ne parle pas de la vie au camp. Et j'ai rencontré, je connais ses enfants, j'ai rencontré son fils aîné en particulier. Il m'a dit, il ne nous en a jamais parlé.
Non, non, mais il a vécu l'enfer.
Il n'en a jamais parlé à ses enfants.
Dora, c'était le camp qui était...
Incapable d'en parler.
À côté des fusées allemandes, travailler dans les souterrains.
Oui, parce que c'est des souvenirs horribles. Et puis, il aurait resté cet esprit que, à force de souffrance, on les a déshumanisés. Ils se volaient le pain entre eux. Oui, des gens bien, qui étaient bien, ils se volaient le pain. Ils étaient complètement déshumanisés. Il me disait quand même, René, le pire, c'est la faim. La faim, ça te prend la cervelle. Tu n'es plus capable de penser à autre chose. Et alors, ils avaient tous ce sentiment en étant rentrés d'être devenus des animaux, d'avoir perdu leur humanité. Et ils en avaient honte. C'est pas de leur faute, mais ils en avaient honte. Ils avaient honte d'être devenus ce qu'ils étaient devenus. C'est-à-dire des gens capables de se battre pour un morceau de pain gros comme ça.
Oui, ça a été horrible.
Voilà. Il y aurait tant de choses encore à dire. Mais ça, il est au CDI.
Faites en sorte que ça ne se reproduise jamais.
Oui. Ça, c'est mon pense-bête. Vous avez posé des questions plus pointues. Que ma mémoire défaille un peu, je retrouve le renseignement là-dedans. À notre âge, hein, la mémoire s'en va, comme la vue et tout le reste. Mais enfin, ça nous fait grand plaisir d'être écouté par des élèves, d'être entendu, d'être sollicité pour faire ça, parce que il faut vraiment que ça se sache. Sachez aussi que si vous mettez dans la lecture des ouvrages relatifs à cette période, vous pouvez trouver des ouvrages qui vous diront tout le contraire. Il existe une catégorie de gens qui s'appellent les négationnistes, qui sont des nazis, des français, hein, qui sont nazis, et qui ont entrepris de nier la déportation et de nier aussi la qualité de la résistance.
Oui,
je citais un nom, Gollnisch. Gollnisch à Lyon, il a passé un prof de fac, attention, prof de lettres, de langue orientale et prof de droit international. C'est un militant d'extrême droite. Alors non seulement il écrit, mais il soutient aussi ses amis qui écrivent. Il a été condamné, il est interdit d'enseignement 5 ans déjà, mais il touche quand même la moitié de sa peine. Et ils sont capables d'écrire que il soutient Forisson en ce moment. Hein. Alors Forisson a écrit texto que dans les chambres à gaz, on n'avait tué que des poux.
Ah oui.
C'était fait pour tuer les poux. Alors, bon, il y a nos écrits, il y a les écrits de ces gens-là, il y a aussi les écrits de quelques vantards. Il y a aussi dans la résistance des gens qui ont magnifié un peu ce qu'ils ont fait et qui font un peu de l'avantardisme. Enfin, ça, c'est pas trop. C'est moins grave que le négationnisme.
C'était tellement humain.
Oui. Voilà.